16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, numéro qui risque de remuer pas mal de souvenirs, pas tous bons et pas tous tout public en ce qui concerne mon camarade Stéphane Bern qui garde, je crois, du scoutisme une impression mitigée. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Oui, comme vous dites, mitigé, j'en dirai pas plus, mais nos personnages du jour, eux, ont adoré leurs années chez les scouts.
Frères scouts, le soleil dans les tentes, ses rayons.
On les comprend, mais vous aussi, vous avez adoré. C'est juste l'abbé Cotard qui vous faisait peur, sinon c'était chouette.
Je ne dirai rien sur mes jeunes années de scoutisme.
Et rappelons d'ailleurs que l'abbé Cotard est présumé innocent tout de même. Mais on s'égare aujourd'hui.
Je ne l'ai pas connu.
C'est une légende.
Il s'est attaqué aux jeunes récemment.
Pas de votre temps, reculé. En ce premier jour de juillet, puisqu'on est le premier jour de juillet, ça vous a peut-être échappé, oui. On réunit trois scouts.
Je vous raconte un pionnier du scoutisme avant l'heure qui a influencé celui qui en a fait un mouvement qui s'est développé en Amérique avant de gagner le monde entier, l'écrivain et naturaliste Ernest Thompson Seton. Puis, avant d'être un dessinateur célèbre, lui aussi a été scout dans sa jeunesse. Une expérience qui a changé sa vie et influencé ses personnages aussi, à commencer par un certain Tintin. Je vous raconte Hergé chez les scouts cet après-midi. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un scout plus proche de nous, plus vivant aussi.
Oui, il est un peu le Tintin de la chanson française, sympa, lisse, propre sur lui. Aujourd'hui, je vous raconte le parcours brillant d'un ex-scout qui ne l'est pas moins brillant, Vianney.
Si je vous gêne,
on a autour de cette table au moins deux grands fans et deux autres qui s'en foutent, mais alors complètement. Olivier Pouls et Clémentine. Vous le connaissez un peu?
Un petit peu.
Est aussi charmant qu'il en a l'air.
Il est absolument charmant. D'accord. Et en plus, c'est un fan de Secret d'Histoire, donc je ne peux en dire que du bien.
J'aime bien comment vous sélectionnez vos amis.
Mais oui, écoutez, les gens qui vous aiment, vous les aimez. Ceux qui ne vous aiment pas, vous les aimez pas. Voilà.
Vous avez raison, c'est pour ça.
Avec nous, c'est un peu comme l'équipe. On les aime, ils nous aiment. Ils sont là chaque jour. Ils sont prêts aussi. C'est des vrais scouts. Oui, mais enfin, vous savez, ils viennent aussi vu ce qu'ils ont payé.
C'est vraiment pour le plaisir.
C'est
pas pour l'argent.
Franchement, oui. On est tous là parce qu'on vous aime, Mathieu.
Je sais, Stéphane, et je vous en remercie.
Et celle qui nous entraîne d'abord dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour, Clémentine.
Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Oui, mais vous me laissez songeuse, là, Stéphane, parce que c'est pas très l'esprit scout de n'aimer que les gens qui vous aiment. Au contraire, il faut être dans une démarche beaucoup plus ouverte d'aimer ceux qui ne vous aiment pas.
C'est là, ceux qui vous aiment pas.
Il faudrait. Hein.
Ça, c'est chrétien, ça.
Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez des Blues Brothers? Film de 1980, film culte notamment pour sa musique. Et c'est l'histoire de deux gangsters, les frères Blues, qui se lancent dans la musique. Pourquoi? Pour sauver de la fermeture l'orphelinat tenu par des bonnes sœurs où ils ont passé leur enfance tous les deux. Voilà, ça a vraiment un petit côté Baden-Powell. Vous verrez que ce film est plein de surprises. Hein. Il a reçu l'estampille du Vatican.
Alors c'est bon.
Vous savez qu'aujourd'hui on est le 1er juillet, vous l'avez rappelé, et il y a des choses qui naissent et des choses qui disparaissent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'avec David Castro-Lopez, qui est un garçon plein de nostalgie, il voit disparaître une invention dont il va nous raconter l'origine.
Tout à fait, vous avez résumé la chronique que je vais faire un petit peu, mais c'est tout
mais
à fait
pas
vrai.
Dit de quoi il s'agissait.
Tout à fait, c'est l'horloge parlante.
Disparaître aujourd'hui.
Qui disparaît aujourd'hui. Et je l'ai appelé une dernière fois pour vous. Et donc je vous raconterai à la fois l'histoire de sa naissance et l'histoire de sa mort.
Je me souviens même plus du numéro. Quel était le dernier numéro?
36,99,
c'est ça.
Évidemment. Heureusement, il y a quelque chose qui ne disparaît pas aujourd'hui, c'est le whisky. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Eh bien, je vous raconterai l'histoire de cette boisson qui n'est plus uniquement écossaise ou irlandaise. On trouve des whiskies dans le monde entier maintenant, y compris en France d'ailleurs.
Au Japon, en Chine.
Au Japon, bien sûr. Et je vous raconterai d'où vient ce fameux whisky, cette boisson.
Oui, mais quand c'est pas avec la rivière Tweed, je trouve que l'eau qui permettait justement de faire un bon whisky, c'est plus vraiment ça.
Vous êtes vraiment un puriste.
Comme la princesse Margaret.
J'aimerais bien faire un petit test, vous donner 4 verres de whisky.
On va prévoir ça pour tout à l'heure, on verra si vous reconnaissez celui qui vient de la rivière.
Vous connaissez votre rivière, là, ou pas?
Ça pourrait être un moment encore plus ridicule que Burn to be Alive, et c'est un peu dire notre célèbre quiz d'histoire.
Il y aura la lutte finale pour vous ridiculiser aussi.
C'est vrai, chacun est ridicule à son tour dans cette émission, ça sera tout à l'heure. On jouera avec l'histoire, mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Scout, pourquoi pas? Lui, il a été avant qu'ils existent vraiment. Il est devenu l'un des tout premiers chefs des Boy Scouts of America, le Louveteau. Stéphane Bern ajuste son bermuda, remplit sa gourde et nous raconte un pionnier donc du scoutisme, l'écrivain et naturaliste Ernest Thompson Seton.
Nous sommes à la fin du 19e siècle dans la Sierra Nevada sur les flancs du Mont Alac. C'est là qu'un petit ourson et sa sœur ont été recueillis à la mort de leur mère par Moy, un petit garçon amérindien. Ça vous rappelle quelque chose?
Oh, c'est une belle histoire.
Bah, c'est normal, ce petit ourson-là s'appelle Booba.
Oh, Booba!
Booba.
Booba, le petit ourson.
Oh, c'est toute ma jeunesse, Stéphane.
Booba, le petit ourson. Si tout le monde connaît la chanson, peu savent, en revanche, que Booba et son générique, un rien obsédant, n'auraient jamais existé sans un homme qui, avec ses histoires, en a inspiré la sienne, un homme qu'on connaît peu en France, Ernest Thompson Seton. Ernest Thompson Seton est un Anglais dont l'héritage est pourtant aussi riche que celui de Jack London, l'auteur de Gros-Blanc, avec qui Seton partage d'ailleurs une fine connaissance du monde sauvage. Seton est pourtant né bien loin des forêts canadiennes ou des montagnes américaines dans une petite ville portuaire de l'ouest de l'Angleterre. Mais en 1866, à seulement 6 ans, Ernest Seton fait son premier grand voyage lorsque sa famille émigre au Canada du côté de Toronto. Dernier rejeton d'une famille de 8 enfants, le petit garçon ne vit pas une jeunesse facile, victime d'un père autoritaire qu'il fuit à la première occasion pour s'échapper dans la campagne alentour. La nature devient à la fois son refuge et la source de mille aventures. Fasciné par le monde sauvage, le gamin grandit en apprenant à se débrouiller au milieu des bois où il passe le plus clair de son temps à dessiner les animaux. S'il se forme à la peinture, à Toronto, en Angleterre et même à Paris, oui, l'appel de la forêt se fait toujours plus pressant. D'autant que le jour de sa majorité, à 21 ans, Seton vit une expérience qu'il n'oubliera jamais. Son père lui présente une facture de $537.50, une somme qui correspond à tous les frais engagés pour le nourrir et l'éduquer depuis sa naissance. C'est peu, hein. Seton met un point d'honneur à le rembourser jusqu'au dernier dollar, mais il n'adressera plus jamais la parole à son père. Pour vivre, le jeune homme rejoint le ranch d'un de ses frères dans le Manitoba, l'une des régions les plus sauvages du Canada. Pendant des années, il erre en permanence à la frontière entre nature et civilisation. Pêcheur, trappeur ou chasseur un jour, dessinateur, naturaliste et auteur la saison suivante, Seton est un homme des marges, partagé entre son amour profond des grands espaces d'un côté, sa culture et son éducation de l'autre, qui le pousse d'autant plus vers la société humaine qu'on y reconnaît son talent pour le dessin et pour les mots. Nourri par son expérience de la vie et de la survie, en pleine nature, ses récits trouvent un public. Et c'est lui, avant Jack London, qui fait véritablement entrer les animaux dans la culture populaire. Entendons-nous bien, on n'a pas attendu Ernest Thompson Seton pour croiser toute une ménagerie dans la littérature, du roman de renard aux fables de La Fontaine, en passant par les contes qu'on se racontait à la veillée, mais ces personnages étaient des archétypes plus ou moins interchangeables, à l'exception de ceux qui servaient de métaphores pour s'amuser des qualités et des défauts de l'humanité en échappant au passage à la censure. Avec Seton, les animaux deviennent les véritables héros de ces histoires, dotés d'un nom et d'une personnalité propre. Booba s'inspire par exemple d'une histoire que l'écrivain a baptisée Monarque, le grand ours de Talac, dont on retrouve aussi des traces dans L'Ours, le célèbre film de Jean-Jacques Haneau. Mais la nouvelle qui le rend célèbre est un récit tiré de sa propre expérience de chasseur de loups. Lobo, le seigneur de Corombau, s'inspire en effet de la longue traque qu'il a jadis opposée à un loup puissant et rusé. La mort de Lobo n'a pas grand-chose à envier à celle du loup d'Alfred de Vigny, mais l'intérêt du récit est encore ailleurs. Aperçu saisissant de la vie dans l'Ouest américain, cette histoire, que Rudyard Kipling et Léon Tolstoï ont adorée, raconte d'abord une conversion, celle d'un chasseur qui se transforme petit à petit en défenseur de la cause animale. S'il tue bien le loup, il le fait avec ruse pour montrer que l'animal a bien des sentiments, saisi par des scrupules de plus en plus profonds face à la cruauté dont l'homme fait preuve avec les animaux de la forêt. Si tout cela est fort heureusement courant aujourd'hui, le thème est une révolution à la fin du 19e siècle où l'homme s'est vu comme le seigneur et le maître d'une nature enfin domptée. Pour la première fois, un auteur fait de la vie des bêtes sauvages un récit d'initiation, en narrant leur vie à travers les bois et en décrivant l'intelligence et la ruse des animaux qui luttent pour leur survie. En partageant avec ses jeunes lecteurs le cri d'une gélinotte, le vol d'une corneille ou le piaillement d'un jeune lapin qui apprend à se débrouiller tout seul, cet homme montre la dureté, la beauté d'un monde sauvage qu'il n'idéalise pas, mais envoie aussi un message sur les vertus de la persévérance. Au tournant du XXe siècle, cet homme, qui a désormais 40 ans, est un homme célèbre, respecté et bien installé sur son domaine de Windigul dans le Connecticut, lorsqu'une bande de jeunes du quartier se livre à plusieurs actes de vandalisme sur sa propriété. Plutôt que de passer le relais à la police, cet homme fait alors un autre pari. En les prenant sur le fait, il les invite à partager un week-end avec lui en pleine nature. Drôle d'idée. Pourtant, frappé par l'impact de ces deux jours sur la petite bande d'apprentis vauriens, Seton fonde alors, en 1902, la Woodcraft League, une sorte de club de jeunesse destiné à réunir des jeunes garçons et filles pour leur apprendre à vivre en pleine nature en développant au passage des vertus que Seton connaît bien. La débrouillardise, la solidarité, la camaraderie et le respect du vivant. Le succès est au rendez-vous et très vite, les parents suivent en inscrivant leur rejeton à ce qui est désormais une série de summer camps, des camps d'été organisés autour du mode de vie des Amérindiens, ou plutôt de la culture amérindienne vue par Seton, qui n'échappe pas toujours aux clichés avec des costumes, des tipis, des totems et des veillées au coin du feu. Ce que Seton veut faire passer, c'est l'importance du lien avec la nature, mais aussi la valeur du don gratuit, de la générosité et de l'entraide entre les membres du groupe qui annoncent ce qui deviendra le scoutisme. Seton n'est pas le seul à porter les valeurs qui fondent les Woodcraft Indians et le livre qu'il tire de ses expériences, Le rouleau d'écorce de bouleau, trouve vers 1905 un écho puissant chez un Anglais, Robert Baden-Powell. Il est un ancien militaire qui cherche alors à construire une méthode éducative nouvelle destinée à une jeunesse de plus en plus urbanisée qui perd petit à petit le lien avec la nature. En 1907, quand Baden-Powell crée officiellement le mouvement scout en Angleterre, la ressemblance avec les Woodcraft Indians de Ernest Seton saute aux yeux, pour l'excellente raison que les deux hommes ont beaucoup échangé. Bien des valeurs du scoutisme rappellent celles de Seton. La loyauté, l'apprentissage par l'aventure, une morale tournée vers l'autre, le respect et la solidarité envers les membres, le développement du sens de l'organisation et l'initiative, les veillées aussi. L'influence de Seton sur Baden-Powell est telle qu'à la création de l'antenne américaine du mouvement scout, les Boy Scouts of America, Seton en devient l'un des tout premiers chefs en 1910. Mais l'idéal de Seton, pourtant, n'est pas tout à fait le même que celui de Baden-Powell, et certaines fissures vont petit à petit s'élargir. Baden-Powell ne s'adresse par exemple qu'aux jeunes garçons, là où, pour Seton, il n'y a aucune raison d'exclure les jeunes filles. Son pacifisme est aussi une ligne de fracture avec Baden-Powell, dont le passé d'ancien militaire se retrouve dans l'organisation et le nom même des scouts, un mot qui signifie « éclaireur ». Aux États-Unis, à l'inverse, beaucoup reprochent à Seton l'inspiration amérindienne du mouvement, comme le féminisme militant de sa femme Grace, figure des suffragettes, et on ne tarde pas non plus à se souvenir que Seton n'est pas américain, mais britannique. Lorsque la guerre de 14 éclate, les divergences se multiplient plus encore autour de la question du pacifisme, sur lequel Seton ne compte pas transiger. L'année d'après, la rupture avec les Boy Scouts est consommée, et chaque mouvement poursuit son chemin de son côté. Prêt, toujours prêt. Jusqu'à sa mort en 1946, Ernest Thompson Seton continue de décrire à ses lecteurs la vie des loups, des ours et des coyotes, des cerfs, des lièvres et des perdrix. Un temps masqué par l'œuvre de Jack London, son influence sur la société de son temps est immense et il n'y a qu'à voir la tonalité d'une partie des œuvres de Walt Disney pour comprendre que sans lui, la culture américaine n'aurait pas été tout à fait la même.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Ernest Thompson Seton, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir celui qui lui redonne vie dans un livre. Bonjour Thierry Loger.
Bonjour.
Bonjour Thierry Loger, vous êtes maître de conférence en histoire de l'art contemporain à la Sorbonne Université et vous venez en effet de publier Ernest Thompson Seton, portraitiste du monde sauvage. On a évoqué Jack London dans le récit, et le récit de la vie de Seton peut aussi nous faire penser à John Muir dont on a raconté le parcours lors d'une précédente émission, mais aussi à d'autres auteurs influencés par la nature. Est-ce que le 19e siècle constitue une période marquée par l'essor de la nature chez les auteurs venus d'Amérique du Nord?
Véritablement, la fin du 19e siècle est une période très marquée pour cet intérêt pour la nature, tout simplement parce qu'il y a une situation d'urgence qu'on connaît ici bien plus qu'ailleurs. Il y a véritablement déjà des ouvrages populaires qui vise à alerter sur la situation de la faune. On a déjà, par exemple, William Temple Hornaday qui va publier un ouvrage souhaitant alerter sur l'extermination du bison. C'est exactement aux mêmes années où on va ouvrir les parcs nationaux. Donc pour cette raison, cet homme s'implique à la fois dans les parcs et dans les ouvrages d'Hornaday, mais globalement, il correspond à cet intérêt général pour une mise en œuvre d'une protection de l'environnement.
Alors, à citer des écrivains comme John Muir, comme Jack London, qu'est-ce qui distingue Seton de ses autres auteurs?
Déjà, Seton a cette particularité de dessiner et d'écrire. Mmh. Donc, il illustre ses propres nouvelles. Ce sont majoritairement des nouvelles qu'il a pu produire et qui sont parues en recueil. Et ce qui peut le distinguer, c'est qu'il a souhaité apprendre les beaux-arts, au départ, au contact de la nature, en observant les animaux. Et c'est finalement une attention très scientifique, initialement pour être un naturaliste, qui l'amène à produire ses premières nouvelles et peu à peu dédier son travail à l'enfance dans une perspective d'éducation, mais avec cette idée de vérité scientifique et d'observation.
Stéphane a rappelé que Seton avait vraiment fait entrer les animaux dans la culture populaire. Qu'est-ce qu'il cherchait à raconter à travers ses œuvres? Il voulait raconter des histoires ou raconter la nature telle qu'elle était?
On est véritablement entre les deux. Seton a particulièrement conscience que pour révéler la vérité des animaux, il fallait révéler la vérité de leurs pensées, de leurs sentiments et pas seulement de leurs instincts. Donc pour cette raison, il ne fait pas des livres sur les ours, il fait une nouvelle sur un ours qui a un prénom. Donc il s'agit véritablement ici d'histoire, mais d'histoire basée sur la vérité de l'observation. Les deux ici sont particulièrement liés et les illustrations le révèlent tout autant.
Justement, c'est un illustrateur des animaux. Comment il les représentait?
Alors, on a ici un cas très spécifique, puisqu'il a commencé par l'illustration des sciences, donc cela joue véritablement pour la suite. On a beaucoup d'images de la fin du 19e siècle, en Angleterre particulièrement, et en France d'ailleurs, avec Granville, où on voit systématiquement les animaux qui sont habillés, ou qui sont simplement des hommes avec un masque d'animal, dans les faits. C'est pas du tout le cas chez Seton. Seton, ces animaux, ce sont véritablement des animaux à quatre pattes, dans leur environnement naturel, et il s'agit de représenter des scènes ordinaires de leur vie, mais éloquentes quand il s'agit d'écrire la biographie d'un animal. Donc, on est toujours dans ce balancement sur l'authenticité et la narration.
Stéphane est revenu sur l'influence de la Woodcraft League, sur l'organisation scout de Robert Baden-Powell. Seton a été, alors, oui ou non, un pionnier dans cette volonté d'éducation par la nature?
Alors, je serais bien sûr tenté de dire oui, mais il faut aussi contextualiser les choses en disant que Seton appartient à un mouvement plus général. Un mouvement plus général d'initiation et véritablement de popularisation du rapport de l'homme à l'environnement. Et il faut savoir qu'exactement dans les mêmes années était lancé un nouveau programme scolaire et c'était une discipline qu'on appelait les Nature Studies. Et ces Nature Studies avaient pour objectif, c'est indiqué dans le programme, d'amener l'enfant à entrer en sympathie avec le vivant. Vous voyez, on est vraiment ici dans quelque chose de plus national que cela. Et Seton a bien compris qu'il participait à cette éducation. D'ailleurs, ces nouvelles étaient recommandées dans, justement, les manuels pour les enseignants de l'époque. Donc, il y a vraiment un dialogue ici. Donc oui, un pionnier, mais appartenant à un mouvement plus général.
Et Seton, je le racontais, s'inspire des codes amérindiens pour son club. Il connaissait les Indiens. Est-ce qu'il, au fond, ce qu'il essayait de transmettre, c'est leur rapport particulier qu'ils entretenaient avec la nature?
Il connaissait les Indiens, ça c'est certain. Il s'est aussi inventé indien. On le voit constamment avec des coiffes de chef indien dans ses photographies. Il adore se mettre en scène. Mais c'est plutôt de l'ordre du déguisement. Et d'ailleurs, ces jeunes de la Woodcraft League sont aussi dans l'activité de déguisement puisqu'ils jouent sur l'Indien populaire. Il l'écrit. Son Indien, c'est l'Indien de Fenimore Cooper. C'est pas l'Indien d'Amérique qu'il a pu rencontrer. Même s'il les a rencontrés et étudiés, véritablement, lui, il cherche l'Indien qui fait rêver l'enfant. Donc, il y a aussi ici la part de mythologie qui va avec. Et c'est bien sûr, comme vous le disiez tout à l'heure, le tipi, construire des arcs, se débrouiller dans la nature, fabriquer des totems.
Voilà. On lui a reproché d'ailleurs une vision un peu caricaturale de l'Indien.
On lui a reproché, mais plus tardivement qu'on pourrait le penser. Je pense que c'est vraiment plutôt dans un 20e siècle avancé, quand on s'est lancé véritablement dans des études bien plus ethnographique ou ethnologique de la vie des Amérindiens. Là, on comprend bien qu'on est dans la caricature et justement, il faussait le rapport au réel de la connaissance scientifique, c'est certain, mais il faut aussi ne pas oublier qu'il s'agissait de copier une spiritualité vis-à-vis de la nature. Il s'agissait d'éduquer l'homme blanc, il le dit très clairement, à un rapport spirituel à l'environnement qu'il vénérait chez les Indiens d'Amérique.
J'ai évoqué les divergences qui ont suivi entre Seton et Baden-Powell au sujet du scoutisme. Et vous dites dans votre livre que, je vous cite, « Seton souhaitait surtout prouver que les objectifs des deux chefs n'étaient pas les mêmes. Baden-Powell cherchant à préparer très tôt de jeunes militaires, quand Seton entendait construire des hommes. Le premier travaillait pour la nation, le second pour l'humanité. Son but était de facto beaucoup plus désintéressé. »
Il était bien plus désintéressé, mais c'est surtout qu'il n'avait pas le même objectif. Et c'est aussi la raison de la brouille avec Baden-Powell. Puisque dans les faits, s'il souhaitait vraiment être à ses côtés pour diffuser au-delà du national son idéal de la Woodcraft League, quand il travaille avec Baden-Powell pour fonder les Boy Scouts of America, finalement, on voit bien immédiatement qu'il y a une distinction très forte entre ce rapport justement à, on va dire, un côté intemporel, et il n'y a pas un devenir décidé pour les Boy Scouts, alors que chez Baden-Powell, il y avait à cette date-là, dans le scoutisme, un parcours très réfléchi, allant du scout jusqu'au soldat.
Depuis longtemps, il y a un lien très clair entre scoutisme et religion. Seton, il aurait pensé quoi de ce lien ?
Tout dépend ce qu'on entend par religion. Si par religion on
spiritualité,
entend...
Spiritualité, effectivement, oui.
Voilà.
Bon.
Si on entend religion catholique, Seton oui. n'aurait pas été
oui,
d'accord.
Il n'aurait pas été content, Seton.
Voilà. Mais dans les faits, Seton, il est véritablement dans une perspective mystique et religieuse. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à se représenter lui-même en Saint-François d'Assise et à publier, c'est un ouvrage complètement fou, les 10 commandements des animaux pour montrer que finalement, les hommes et les animaux partagent les mêmes devoirs, et les devoirs moraux, véritablement, mais ils permettent uniquement de déclarer que ces 10 commandements sont simplement issus de la création de manière générale.
D'ailleurs, ça n'a pas plu à tout le monde. Seton a eu beaucoup de succès de son vivant avec certains de ses récits, mais vous expliquez dans votre livre qu'il a été critiqué, notamment par le poète John Burroughs, qui a publié une tribune pour dénoncer justement les histoires animales et protéger les lecteurs contre ses dérives. Mais qu'est-ce qu'il reprochait finalement à ce genre littéraire ? C'est de l'anthropomorphisme, de prêter aux animaux des pensées humaines ?
En fait, ce qu'il leur reproche, c'est d'éloigner les enfants de l'animal réel. Donc il est persuadé que toute cette question des sentiments animaux, c'est de toute façon de la fabulation, et qu'aucun animal n'a été représenté de cette façon auparavant. Donc pourquoi Seton se mettrait à le faire ? Et on comprend bien ici, c'est ce qui se cache derrière tout cela, c'est évidemment le rapport à la création avec un C majuscule. Et Burroughs était bien évidemment dans un rapport selon lequel l'homme est au-dessus de la création et Seton est ici rejeté avec London parce que l'animal devient pensant, tout simplement.
Malgré le succès au début du XXe siècle, Seton semble un peu oublié aujourd'hui aux États-Unis. C'est injuste selon vous et est-ce que c'est vraiment le cas ?
Alors justement, en tant qu'historien de l'art, je ne supposerait pas une injustice. Moi, je pense justement que ces ouvrages ont eu une utilité. Justement, quand on avait besoin de ces ouvrages, ils étaient là. Et est-ce que c'est un hasard si finalement on va les redécouvrir aujourd'hui ? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il y a eu un trou d'intérêt pour Seton. Et si on se réintéresse aujourd'hui un petit peu à lui, c'est aussi parce que ces textes ont une actualité, vous venez de l'exprimer.
Stéphane a conclu le récit tout à l'heure sur les influences qu'a eu Seton par la suite, notamment pour Disney. Est-ce que ses œuvres ont trouvé un écho ailleurs dans la culture populaire ?
Alors, ces œuvres ont trouvé un très fort écho dans la culture populaire. Vous parliez tout à l'heure de Booba, mais en fait, Booba, c'est quoi à la base ? C'est un manga. Et en fait, dans le manga, on trouve plusieurs références à Seton. Il y a eu des adaptations même de la vie de Seton en manga. Donc, c'est déjà une des résurgences. Mais là où je l'identifie le plus, c'est en fait dans le documentaire animalier. Cette idée de raconter l'histoire d'un animal quasiment de la naissance.
Et voilà, le suivant,
on suit cet animal de petit jusqu'à sa mort avec toutes ses aventures rocambolesques. En fait, c'est exactement ce qu'écrivait Seton. Et plus amusant encore, c'est ce qu'a écrit Disney en adaptant Lobo de Seton en film. Et en film véritable et pas une animation. Donc il y a vraiment un passage entre les deux qui est cohérent.
Merci beaucoup Thierry Loger d'être venu avec nous sur la vie de cet amoureux des animaux, mais aussi des hommes et qui a voulu les éduquer par la nature. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez qui vient juste de paraître, Ernest Thompson Seton, portraitiste du monde sauvage aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
History.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans fausses notes, mais avec les siennes de notes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, en parlant de notes, pour eux, une seule suffit à les reconnaître. Everybody needs somebody to love. Les Blues Brothers sont l'histoire de deux gangsters en mission pour le Seigneur.
Bah oui, dites donc, Everybody needs somebody to love, c'est furieusement Baden-Powell, ça, vous êtes bien d'accord, non?
Furieusement.
Furiously.
Furiously.
Bon, alors, ma jeunesse, oui, mais la vôtre aussi, cher monsieur, et le film n'a pas 100 ans, mais 42 cette année. Donc, l'histoire, ce sont deux frères, Jack et Elwood Blues, interprétés par Dan Aykroyd et John Belushi, et ils apprennent que l'orphelinat catholique où ils ont été élevés est surendetté et qu'il va être rasé. Et alors, comme il n'y a pas de loto du patrimoine, ils décident de reconstituer leur ancien groupe de musique pour gagner les 5 000 $. D'ailleurs, ça paraît curieux parce que même si ça a 40 ans, 5 000 $ pour sauver l'établissement, ça paraît pas beaucoup. Mais en tout cas, ils se disent qu'en organisant un concert, en retrouvant les vieux copains de leur ancien groupe, eh bien, ils pourront payer la dette de l'établissement et le sauver. Et tout au long du film, ils sont constamment à deux doigts de se faire prendre. Mais non, bien sûr, ils ne se feront jamais prendre car ils sont en mission pour le Seigneur. Alors, dans la vraie vie, les deux comédiens sont loin d'être des boy scouts et encore moins des enfants de cœur, même si Aykroyd a grandi dans une très forte tradition catholique romaine à Ottawa, au Canada, donc il a quand même bien dû être enfant de cœur. D'abord, dans le film, les deux gangsters, même bons enfants, font quand même de gros dégâts sur leur passage. Le film va tenir pendant 18 ans, ça va vous faire de la peine, ça, mais le record du plus grand nombre de voitures détruites au cinéma.
Oh non, ça c'est moche.
C'est pendant 18 ans, 103 pour être exact. Et surtout, le problème qui n'est pas très catholique, c'est que le tournage est de bout en bout une gigantesque fête. John Belushi est un gros consommateur de drogue et d'alcool.
Oh non, oh non.
Et pendant le tournage...
Vous voyez, ça nous gâche le plaisir.
Ah bah, parce qu'on n'imaginait pas une seconde en plus.
Mais l'homme n'est grand qu'inexplicable dans ses faiblesses.
Les voies du Seigneur
grandeurs.
Sont impénétrables.
Exactement. Alors, pendant le tournage sur place, il passait ses nuits dans les bars de la ville. Il arrive systématiquement en retard sur le tournage. Et son copain, Dan Aykroyd, affirmera qu'une partie du budget du film a été consacrée à l'achat de cocaïne pour Belushi, qui, selon lui, était en permanence sous l'effet de la drogue pendant le tournage.
Vous voyez ce qu'on économise dans cette émission, Stéphane, grâce au fait qu'on ne consomme pas de drogue, franchement.
Ah oui,
pour le showbiz, c'est assez unique.
Dépenser
en radio, c'est important.
Ah oui.
Écoutez, à côté du lieu de tournage, ils avaient même créé un bar privé pour les acteurs que l'équipe appelait le Blues Club, juste à côté du plateau principal pour qu'il y ait en permanence de quoi se sustenter en diverses substances plus ou moins licites. Eh bien, figurez-vous que malgré ça, et là ça a été ma découverte en préparant cette chronique, eh bien les Blues Brothers ont reçu la bénédiction du pape. Parce que le pape se trouvait à Chicago et il a entendu parler d'un film en tournage qui, derrière la comédie musicale, parlait de foi, d'espoir et de rédemption. Et de ce fait, il est venu sur le plateau et il a béni toute l'équipe. On imagine le pape avec son goupillon, voilà.
Ah oui, on lui a caché la drogue ce jour-là.
Ah bah oui, alors... Pour le 30e anniversaire du film, un journaliste de l'Osservatore Romano, le quotidien officiel du Vatican, a déclaré que ce film était indéniablement rempli de symboles et de références morales liées au catholicisme. Et oui, malgré les jurons, malgré la forte consommation d'alcool des deux protagonistes, malgré l'utilisation parfaitement gratuite de lance-flammes et de lance-roquettes pendant le film, et bien que le personnage d'Elwood y traite de pingouin Sœur Marie Stigmata, on pouvait enchanter les louanges et considérer ce film comme un film catholique. Ah bah oui, voyez, vous ne saviez pas, mais voilà. Non. Les Blues Brothers, film catholique béni par le pape. Hein. Le film a indéniablement un caractère universel. Hein. Ecclesia, universal, quelle est la formule là, l'Église catholique universelle. Oui, c'est un film universel puisqu'il a reçu les éloges d'un public familial, de celui des bars louches de Chicago et du Vatican. Une sorte de miracle assaisonné de petits miracles comme les prestations inoubliables de James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles. C'est extraordinaire, ah ouais. la galerie de musiciens exceptionnels que réunit ce film. Le miracle ne se reproduira pas, c'est peut-être d'ailleurs la caractéristique des miracles, puisque la suite, tournée 18 ans plus tard, a été un désastre critique et financier. Et la seule façon dont Blues Brothers 2000 a dépassé l'original, c'était dans le nombre de voitures détruites.
Il y en avait
104 au lieu de 103. Et oui, comme on lit, le diable est dans les détails.
Merci beaucoup Clémentine, vous êtes retombée sur vos pattes.
Oui, et on n'a toujours pas exactement l'expression sur Ecclesia, Mundi,
attends,
machin.
Mais c'est,
là,
dans la, c'est, dans la, c'est dans la formule
si vous la trouvez,
consacrée.
Vous démarrez le quiz avec un point d'avance.
Ecclesiam Universal.
Stéphane fait la gueule.
Sam Catholicam.
Mais c'est pas normal.
L'Église catholique universelle.
Oui.
Oui, mais comme
c'est
elle l'a pas trouvé.
C'est en français. Mais...
Eh bien, vous démarrez le quiz.
Ah, j'ai un
à
point
zéro.
De moins. Ah,
non,
excusez-moi.
Non, à zéro, finalement, pas de point supplémentaire, puisque vous n'avez pas été foutu de retrouver l'expression latine. À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Les Blues Brothers l'ont admirablement chanté.
Everybody.
On a tous besoin de quelqu'un à aimer. Hélas, on a aussi tous besoin de quelqu'un à détester. C'est pourquoi Dieu a également inventé le quiz. Jouons à Bern to
Oui, mais enfin, celui qu'on déteste le plus dans le quiz n'est pas forcément celui qu'on croit. Hein. À mon avis, je ne dis rien.
Ah oui, tant qu'on... Finissez votre phrase, t'intéresses
non, non, non,
mais
non,
si,
non, non,
votre,
non, 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 non,
celui qu'on déteste le plus dans le quiz n'est pas notre rival.
Non, je pense à Baden-Powell et non, je pense
mais
que
celui qui
je
présente
vous
le quiz,
aime
c'est allez au bout de votre pensée. C'est ça que vous vouliez dire,
elle
Clémentine.
N'a pas de pensée.
Eh bien voilà, elle démarre le quiz avec un point en moins. Question
voilà.
Pour vous, Stéphane. La première question, Stéphane, qui pense la même chose que vous, mais qui n'a rien dit et qui démarre
donc
le quiz
faucheton.
Avec zéro point. Vous en savez quelque chose, Stéphane? J'imagine, il faut nous suivre en vidéo parce que la tête de Stéphane, j'imagine au premier rang en classe.
C'est haignant, c'est ça, c'est le bon élève qui lève le doigt,
c'est
il
lui
est au
qui a,
premier
c'est lui
rang,
qui a
il connaît
le,
les réponses.
C'est lui qui a lancé le petit avion sur le professeur, mais ensuite quand le professeur se retourne, il est comme ça au premier rang avec
exactement.
Un grand sourire focus. Oui, je connais toutes les dates de l'histoire. Bon, question numéro 1 Stéphane, vous en savez quelque chose, on peut être passionné de la reine d'Angleterre à tout âge. Ainsi, en 1837, Thomas Edward Jones a 14 ans, il va pénétrer dans Buckingham Palace. Fan de la reine Victoria, elle va réussir à ressortir avec un service à thé royal, mais il se fera arrêter à 200 mètres du palais. Vrai ou faux ?
1837, c'est l'année de l'avènement de la reine Victoria.
Ce n'est hélas pas la réponse que j'attends.
Mais il est entré à Buckingham.
Il a pénétré dans Buckingham Palace et il en serait ressorti avec un service à thé. Avant de se faire gauler,
c'est
de
possible.
S'en mettre.
C'est
possible, mais je ne demande pas si c'est possible.
Il y a pas même, il devrait y avoir un article sur toutes les intrusions à Buckingham,
oui,
non
oui.
C'est arrivé assez souvent quand même, non?
Il va falloir répondre, Stéphane.
Bon, je dis oui.
Il va falloir répondre, Stéphane.
Oui.
Vous répondez oui.
Non, je réponds non.
Non, alors non, ce que je veux dire, je voulais juste vous prévenir, vous avertir d'une chose, voilà, pour ne pas vous crier ensuite, vous avertir que vu vos connaissances en matière de tête couronnée, spécifiquement sur la famille royale
si
anglaise.
Si vous avez faux,
si vous avez bon, ça
c'est
sera,
deux points.
Si vous
pénalité.
Avez bon, ça sera un point. Si vous avez faux, ça sera moins un point.
Ah oui,
il y aura,
c'est normal.
Il y aura
c'est
une
normal.
Pénalité
là,
parce que là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ne pas connaître Thomas Edward Jones, c'est.
Non,
c'est
je ne connais pas tous les larcins.
Oui.
Excusez-moi, je.
Mais vous devriez. Vous répondez vrai ou faux.
Vous pouvez pas
écoutez,
vous
oui, je dirais que c'est vrai parce que ça m'amuse.
Vous avez.
Et les voilà à égalité, moins un partout. Thomas Edward Jones était effectivement un vrai fan de la reine Victoria. Stéphane, il a effectivement réussi à pénétrer au cœur du palais de Buckingham. Mais non, pas de service à thé pour lui. Il a réussi à s'asseoir deux fois sur le trône et une fois, il a été pris avec les sous-vêtements de la reine. On l'imagine en train de fouiller dans les sous-vêtements. Il a été déporté en Australie pour l'éloigner. Évidemment.
Ah oui.
Bah oui, à l'époque, on plaisantait pas. Hein.
Ah, oula.
Question numéro 2 pour vous, Clément. Est-ce qu'on va passer dans le positif? Ah bah de toute façon, on passera pas dans le positif. Au mieux, vous aurez zéro. Seth était chez les Égyptiens le dieu de la confusion et du désordre, du tonnerre et de la foudre. Divinité très crainte, sous la première dynastie, on n'hésitait pas à faire des sacrifices d'animaux pour le conjurer. Et on le faisait principalement avec des hippopotames. Vrai ou faux?
J'allais les capturer. Hein.
C'est pas facile de capturer un hippopotame.
Est-ce qu'il y avait des hippopotames dans l'Égypte
Manuel, c'est une idée pour raisonner, oui, effectivement. Il y avait des hippopotames en Égypte.
Est-ce que, ils sont plus bas,
est-ce que dans le Nil, on voit souvent des hippopotames?
Non. Non, il n'y a pas d'hippopotames dans le Nil.
Non, parce que peut-être dans les méandres du Nil, parce que peut-être il leur faut une eau un peu stagnante, là, pour être pas épais. Ah non, pas forcément, ils aiment peut-être bien être dans l'eau courante.
Moi, j'en ai vu en Afrique du Sud, mais c'est plus bas.
J'en ai vu en...
Vous qui êtes africaine.
C'est vrai, mais je n'ai pas vu. Il n'y a pas d'hippopotame dans le lac Rose parce que c'est trop salé. Ah. Et j'ai vu des pélicans, mais je ne pense pas avoir vu d'hippopotame. Si, j'ai vu des hippopotames. Mais alors, Seth, qui était quand même un. Vous dites que c'était un dieu important et qu'on lui aurait sacrifié principalement des hippopotames.
C'est ma question. Vrai ou faux?
Et je réponds non.
Elle répond non.
Vous avez.
Les compteurs restent bloqués dans le négatif, c'est terrible. C'est même humiliant pour eux. Enfin bon, moi je ne fais que présenter ce quiz. Sacrifier un hippopotame était une victoire sur 7. L'hippopotame mâle était considéré comme un animal tout à fait destructeur. Contrairement à d'autres animaux, on n'a jamais retrouvé de momie d'hippopotame. Il ne fait pas cet honneur.
Enfin, moi, ce qui me gêne dans votre question, c'est principalement...
Ne chipotez pas.
Non, c'est pas chipoter. Voilà c'est un animal très difficile à chasser. Vous imaginez la porter sur un autel pour le sacrifier, un hippopotame?
Mais ils ont construit des pyramides. Hein. Ils peuvent porter un hippopotame.
Il n'y a pas de problème d'emploi là-bas.
Mais oui, voilà. C'était avec l'esclavage, ça permettait de porter n'importe quoi. Ouais. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Oui. Attention, il en va de la crédibilité de notre émission. Un peu de musique. Will you still need me? Will you still feed me? Cette chanson, écrite par Paul McCartney, est sortie en 1967. Elle s'intitule « Quand j'aurai 64 ans ». Quand elle est sortie, Paul avait 25 ans. Mais il l'a écrite à 24. Vrai ou faux? Réfléchissez.
Ça, c'est intéressant.
C'est plus intéressant que vous n'imaginez.
Oui, parce que je crois qu'il a dit 64 pour une raison bien précise. 64, c'est pas seulement pour la rime. C'est que, effectivement, il avait 24, puisqu'il disait « in 40 years », ou il dit autre chose. Je connais pas toutes les paroles.
Votre raisonnement est pas mal, mais est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que donc, il avait 25 ans quand la chanson sort, mais est-ce qu'il l'a écrite à 24?
Il est à 24, oui. Je dirais qu'il l'a écrite à 24.
Ouais, vous diriez ça.
Hein. Ouais.
Vous avez
encore perdu.
Et ça me fait de la peine pour vous, Stéphane. Ça me fait de la peine parce que c'était le bon raisonnement, en fait. C'était juste, le piège, c'est qu'en fait, il l'a écrit à 14 ans. D'où c'est pour ça qu'il avait pensé 64, 64. Il avait 14 ans quand il l'a écrit. Ça a été une des toutes premières chansons écrites par les Beatles, mais enregistrée évidemment beaucoup plus tard. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Cazac.
Dis donc, un peu de musique. Pas à sauver l'honneur. Will you still need me? Will you still feed me
when I'm 64? Cette chanson, écrite donc par Paul McCartney à 14 ans, a été enregistrée alors qu'il en avait 25. Ce n'est pas la vraie voix de Paul qu'on entend sur ce disque. Elle a été accélérée pour lui donner un ton plus jeune. Vrai ou faux? Écoutons. Est-ce que la voix de Paul, bien avant l'autotune, est-ce que la voix de Paul a été trafiquée pour paraître plus jeune sur ce titre célèbre des Beatles?
Écoutez, je n'en ai aucune idée, donc je réponds non.
Elle répond non.
Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu.
Et c'est la réponse qu'il nous fallait pour atteindre la question 5, je pense que vous l'avez fait exprès.
On fait quand même la question 5.
Elle a été rendue plus aiguë d'un demi-ton. Sachez que l'année dernière, le manuscrit original de la chanson a été vendu pour 102 000 dollars chez Sotheby's. Il y a un mec qui avait dit 100 000 dollars, puis Stéphane est arrivé, il a dit 102 000, hop, adjugé à M. Bern.
Est-ce que, non, parce que dans ce cas-là, j'aurais su répondre à la question. Est-ce que vous vous remettez en cause quand vous voyez que, par exemple, aucune des questions ne trouve preneur? Jamais vous remettez
alors,
en cause sur
question ne trouve pas preneur, Stéphane. Une question ne trouve pas preneur.
Réponse,
les gens savent ou pas.
Oui, mais vous rendez bien compte que vous avez affaire à deux amoureux de l'histoire qui doivent répondre à des questions sur les Beatles.
Oui, mais les Beatles, c'est l'histoire, Stéphane, si vous voulez. C'est autant l'histoire que la reine Victoria, si vous voulez. Chacun son histoire.
Alors, okay.
Vous n'aviez pas plus la réponse de la reine Victoria.
Il a pris les dessous de la reine au lieu du service à thé.
Eh bien oui,
franchement.
Eh bien oui,
Est-ce que ça, c'est de la grande histoire?
C'est les petites histoires qui font la grande, comme le dit le sous-titre de notre émission. Question numéro 5, nous sommes à moins 1 partout.
Non, c'est on est à 0.
C'est un des pires quiz de l'histoire. En août 1943, c'est l'opération Cottage. Ouais. Les Américains et les Canadiens débarquent sur l'île de Kiska, occupée par les Japonais. Vous avez le contexte. L'île de Kiska, c'est à l'ouest de l'Alaska. Pourquoi cette opération fut un énorme ratage? Trois possibilités. Parce qu'il n'y avait en fait personne sur l'île, les Canadiens et les Américains se sont tirés dessus sans le savoir. Parce que quand les Américains et les Canadiens ont ouvert le feu, puis se sont rendus compte que ce n'était que des phoques perdant la moitié de leurs munitions, ou parce qu'ils se sont tout simplement trompés d'île.
2.
1.
D'accord. Donc pour vous, les Canadiens ont tiré sur les Américains, ils se sont tués entre eux en fait. Il n'y avait personne, ils ont tous cru que c'était des Japonais en face, ils se sont tirés dessus. Et pour Stéphane, alors là c'est intéressant, pour vous, ils ont gaspillé leurs munitions parce qu'ils ont confondu les Japonais avec des phoques. Et c'est vrai que le Japonais et le phoque pour vous, oui. dans votre... Oui, vous, alors là, on a une très très belle imitation. On avait déjà eu l'imitation de l'accent japonais. Là, on a une imitation du japonais, physiquement, par Stéphane Bern, qui donc imitait ce qui ressemblait plus, il faut le bien le dire, à un pingouin. À un pingouin qu'à un phoque. Mais bon, bref, Stéphane. Alors, bon, vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné, Stéphane, je vous l'annonce. Malgré tout votre bagou, toute votre culture historique, non. Il ne s'est pas passé ça. Ils n'ont pas confondu les phoques et les japonais. En revanche, ils se sont tirés dessus comme des cons. Bravo, bravo, Clémentine.
Vous
savez
que j'ai pensé à ce que j'ai raconté l'autre jour sur Wounded Knee aux États-Unis, sur les troupes américaines du 7e de cavalerie qui se sont tirées les uns sur les autres.
Alors, militairement, on peut retenir cette stratégie et ne jamais débarquer chacun d'un côté de l'île. Problème, les Japonais étaient partis deux mois avant. Et à cause du mauvais temps, il y avait du brouillard, les Américains et les Canadiens se sont tirés dessus en pensant tirer sur les Japonais. Résultat, Stéphane, 22 morts. C'est drôle, 22 morts et 174 blessés. Alors là, voilà
oui,
comment
non,
ça s'est passé.
C'est pas drôle.
C'est pas drôle, mais quand Stéphane imite le japonais en imitant le pingouin, pour une raison obscure, c'est vraiment très drôle. C'était le quiz. Merci et bravo. Très belle victoire de Clémentine.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et notre spécial Scout toujours. Continue. Et toujours en compagnie de celui qui, vu son côté débrouillard, n'a jamais dû être scout, c'est Mathieu Noël.
C'est pas ma faute, Stéphane, ça n'existait pas en Suisse. Ah chez nous, on passe directement d'enfant à banquier. Il n'y a pas d'entre-deux.
Nos personnages du jour, eux, ont donc été scouts. Et les ont même initiés, comme l'un des pionniers naturalistes, Ernest Thompson Seton, qui a inspiré le fondateur du scoutisme, Robert Baden-Powell. Et maintenant, je vous raconte un dessinateur qui a été scout, a publié ses premiers dessins dans une revue qui leur était destinée, le père d'un certain Tintin. Vous avez évidemment reconnu le dessinateur Hergé, dont je vous dresse le portrait. Quant à vous, Mathieu, c'est d'un scout plus récent que vous allez nous parler.
Oui, Stéphane, très récent, puisqu'aujourd'hui, je vous raconte le destin d'un homme qui vous a donné la passion du scoutisme, l'abbé Cottard. Non, je plaisante, Stéphane, c'est une promesse que je vous ai faite. On n'évoquera pas l'histoire de l'abbé Cottard, ou alors vraiment par petites touches discrètes, un peu comme lui finalement. Non, cet après-midi, je vous brosse le portrait du plus sympa des scouts. Tout le monde l'adore, surtout David Castello-Lopez, c'est Vianney.
Alors, sans oublier justement nos chroniqueurs, qui sont où, qui sont pas là. Ben si, ils sont où, ils sont là. Ils sont là. David Castello-Lopez qui nous raconte les origines de l'horloge parlante. Vous savez, on téléphonait à l'horloge, je disais, il est midi, une minute.
Exactement, hein. c'est ça l'horloge parlante qui disparaît aujourd'hui.
Mais ça, c'est très triste quand même.
C'est très triste.
Et pourquoi, comment on va faire maintenant quand on veut savoir l'heure qu'il est?
On regarde son téléphone, on regarde son ordinateur. Il y a plein d'autres façons en fait maintenant. Et c'est pour ça que, en fait, on dit qu'on est. Effectivement, moi aussi, ça me rend triste, mais ça faisait 20 ans que je n'avais pas appelé l'horloge parlante.
Parce que vous avez déjà appelé l'horloge parlante?
Oui,
moi, ça m'est arrivé.
C'est vrai?
Très souvent, oui.
Mais pour régler vos montres.
Ah non, parce qu'en Suisse, il y a des horloges partout, c'est pour ça.
Oui, mais comment vous savez si elles sont à l'heure?
Oh bon, excusez-moi. On est en Suisse.
Une Patek Philippe, ça ne se dérègle pas comme ça.
Bah non, Stéphane, c'est précis.
Oui, d'accord.
Olivier Pouls est avec nous aussi. Lui aussi, il est précis, mais en gastronomie. Et aujourd'hui, on parle d'un produit à consommer avec beaucoup de modération.
Oui.
C'est le whisky.
Le whisky. Alors voilà, les Irlandais et les Écossais se disputent la paternité du whisky. On essaiera de trancher, pas facile. Et puis le whisky qui s'est exporté un peu partout dans le monde, puisqu'on fait du whisky maintenant pratiquement sur tous les continents.
Puis en fin de l'émission,
la lutte finale, évidemment. Déjà, vous allez perdre parce que vous avez deux victoires en retard sur David, qui lui-même a deux victoires de retard sur Olivier.
ce n'est pas moi qui perdrai la lutte finale, car je vais savoir rebondir au dernier moment.
Il serait temps.
Quand on m'attend
plus.
Temps. Oui. Et tout de suite, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il est le héros de notre enfance, reconnaissable entre mille avec sa houppette blonde et son haut bleu.
Oh, Michou!
Non, votre autre héros, Stéphane, Tintin. S'il a rendu célèbre son auteur et dessinateur dans le monde entier, il permet aussi d'en connaître plus sur lui et sa jeunesse. Une jeunesse de scout, oui. Stéphane Bern est toujours prêt pour nous raconter Hergé.
Près de 40 ans après sa mort, tout le monde ou presque connaît Hergé et tout le monde ou presque a ouvert un jour ou l'autre un album de Tintin. Mais lorsqu'on plonge dans l'histoire d'Hergé, on tombe sur une autre série un peu moins connue, Quick et Flupke, qui suit à travers Bruxelles les péripéties de deux garnements et de leur victime récurrente, l'agent 15. Au-delà du côté très chaplinesque de leurs aventures, on pourrait croire qu'il y a un peu de Hergé, ou plutôt de Georges Rémy, le vrai nom du dessinateur belge, derrière les deux galopins. On se plaît à imaginer que le futur Hergé a connu à travers les rues de Bruxelles une enfance amusante, faite de gaffes, de bonnes blagues et d'écoles buissonnières. Eh bien, c'est tout le contraire, à en croire Hergé lui-même. Né en 1907 dans une famille de la classe moyenne wallonne, le petit Georges connaît des premières années plutôt moroses et surtout angoissantes dans un pays occupé par l'armée allemande entre 1914 et 1918. L'école n'y est pas tellement plus gaie. Issu d'une famille catholique, Georges Rémy use ses fonds de culotte sur les bancs d'une institution bruxelloise, le collège Saint-Boniface, où il reçoit un enseignement qu'on jugerait plutôt sévère, vu d'aujourd'hui. Bref, l'enfance d'Hergé est plutôt tristounette, ce qui surprend quand on connaît l'incroyable inventivité de son œuvre. Pour ne prendre que le plus célèbre, Tintin de 1929 à 1976, et en 23 albums seulement, le reporter et son fidèle Milou se promènent sur tous les continents, posent leurs pieds sur la Lune, explorent des îles mystérieuses et des épaves englouties, découvrent une civilisation oubliée au fin fond des Andes, croisent le Yéti au Tibet et rencontrent même quelques extraterrestres dans vol 714 pour Sydney.
Capitaine, avez-vous vu le professeur Tournesol ?
Oui, il était juste derrière vous.
Le malheureux, il a dû rester en arrière.
Vous êtes fou ou quoi ? Vous nous conduisez dans le cratère alors que le volcan va entrer en éruption.
Viens ici, cher monsieur, que son compte doit venir.
Quelque chose a bien forgé l'imaginaire du futur Hergé, mais quoi ? La réponse est Hergé lui-même qui l'a donnée dans une interview accordée au spécialiste de la bande dessinée Numa Sadoul. « Mon enfance me paraît très grise. J'ai des souvenirs, bien sûr, mais ces souvenirs ne commencent à s'éclairer, à se colorer qu'au moment où j'ai découvert le scoutisme. » En entrant à Saint-Boniface, celui qui deviendra Hergé a en effet rejoint la troupe scout du collège et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a vraiment changer sa vie. À une époque où la jeunesse ne voyageait pas ou peu, Georges s'est en quelque sorte échappé du quotidien. Celui qui portait le surnom totémique de renard curieux, en référence à sa manie de sans cesse poser des questions, crapahute beaucoup dans l'uniforme classique des scouts. Un béret, une chemise beige, un foulard coloré, un short kaki et de bonnes chaussures de marche. Sans compter deux accessoires qui ne vont plus jamais le quitter, un calepin et un crayon. Pour Georges Rémy, ces 10 années de scoutisme sont à la fois une période de libération et de transformation. Au gré des veillées et des randonnées dans les Dolomites, les Alpes autrichiennes ou les Pyrénées, il apprend à croquer sur le vif tout ce qui l'entoure, des paysages aux animaux en passant par ses camarades qui ne tardent pas à découvrir les talents de dessinateur, de renard curieux qui publie régulièrement ses dessins dans les bulletins de sa troupe. C'est même là pour la première fois que Georges Rémy utilise ses initiales et les renverse pour signer RG. RG est né. Lui, de son côté, s'imprègne des valeurs du scoutisme, la persévérance, la débrouillardise, le sens de la justice et de la gentillesse, le respect de la nature, le sens de l'amitié et le goût de l'aventure. Et si ces traits de caractère vous rappellent un certain jeune reporter qui se balade en général, oui, la houppette au vent et le pantalon de golf, bah ce n'est pas un hasard. Oui, Tintin doit évidemment beaucoup à la figure du Boy Scout. Et le lien est encore plus direct avec le grand frère de Tintin, né 3 ans plus tôt, Totor, chef de la patrouille des Hannetons, dont les aventures extravagantes sont publiées en feuilleton dès 1926 dans le journal Le Boy Scout belge. L'intrigue est encore sommaire, évidemment, souvent naïve et décousue. Mais il y a déjà de l'humour, de l'aventure et un sens aigu de l'action et du récit. Il n'en faut pas plus pour que le dirigeant de l'unité scout de Saint-Boniface, René Weverberg, recommande le jeune homme à la direction du XXe siècle, un journal catholique que rejoindre Hergé, d'abord comme simple employé, puis de fil en aiguille, Hergé gravit les échelons, dessine des couvertures, des affiches, des classiques de la littérature jeunesse et crée ses premiers personnages récurrents comme Flupke, Nénès, Poussette et Cochonnet, qui suit trois adolescents accompagnés dans leurs aventures par un cochon. Puis très vite, Hergé abandonne Flup, Nénès et les autres, reprend son vieux Totor pour en tirer un nouveau personnage, plus âgé et plus prometteur, Tintin. Un jeune reporter qui voyage à travers l'Union soviétique pour en démonter la propagande. Ce n'est encore ni très léger ni très réussi comme message, mais tout est déjà là. L'humour, la vitesse, l'action et ce sens du gag presque cinématographique, comme avec cette hélice que Tintin taille dans le mauvais sens qui fait décoller son avion en marche arrière. La suite est connue. En quelques années à peine, Hergé se trouve une patte et un style en posant avec Tintin les bases de cette fameuse ligne claire qui se caractérise par un trait dont l'épaisseur est constante. Pas de hachure, pas de jeu d'ombre ou de lumière, mais un tracé net et épuré qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Hergé abandonne vite Totor, mais Tintin lui doit beaucoup avant de prendre de plus en plus d'épaisseur. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les aventures de Tintin et Milou, éditées chez Casterman, ont déjà conquis la Belgique, mais aussi la France et la Suisse. L'image d'Hergé, accusé d'avoir fréquenté d'un peu trop près le petit monde des collaborateurs belges, sera abîmée du conflit, mais le dessinateur ne tarde pas à reprendre le cours d'une carrière immense, qui se compte certes en chiffres, avec 250 millions d'albums vendus en 90 langues à travers le monde, mais qui ne saurait en aucun cas se résumer à un phénomène d'édition. Tintin, le boy scout devenu reporter, a marqué la culture populaire de tout le XXe siècle et se réinvente encore, par exemple en passant sur grand écran grâce à Steven Spielberg en 2011.
Vous ne seriez pas apparenté au haddock du château de Boulinsart par hasard ?
Pourquoi cette question ?
C'est pour un article sur lequel je travaille. Une vieille épave au large des côtes de Saint-Domingue. Une caravelle.
On peut parier sans trop de risque, Tintin, que Hergé a laissé dans une vilaine posture à la toute dernière case de son dernier album inachevé, L'Alfart, n'a pas dit son dernier mot.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Hergé, nous sommes Stéphane avec un tintinophile de la première heure. Bonjour Albert Algou.
Bonjour.
Albert Algou, vous êtes humoriste, scénariste, tintinophile avéré. Vous avez d'ailleurs publié il y a quelques années le dictionnaire amoureux de Tintin chez Plon. Qu'est-ce qui fait que le personnage de Tintin soit devenu aussi culte encore aujourd'hui pour vous ?
Ben, vous l'avez très bien résumé tout à l'heure, j'ai dit ça sans vous flatter, c'est-à-dire que ça tient tant à la qualité graphique, à la qualité des scénarios, l'alliance de burlesque, de réalisme, et moi je dirais c'est la complexité de cette œuvre qui en fait le succès, parce que si c'était, les BD cathos communistes des années 50 ont été totalement oubliés aujourd'hui, donc si Tintin dure, c'est pas seulement parce que c'est un héros moralisant du côté du bien. C'est un héros complexe et surtout, c'est, cette comédie humaine qu'a créé Hergé qui est complexe.
Dans votre dictionnaire, Albert Algou, vous avez rédigé plusieurs occurrences pour Tintin comme Tintin raciste, Tintin de droite, la vie sexuelle de Tintin. Beaucoup d'interprétations circulent autour de ce personnage. Selon vous, qui est vraiment Tintin ?
Alors Tintin, je ne saurais pas vous le dire. Si vous voulez, Tintin, c'est un personnage complexe. C'est-à-dire, il y a effectivement tous les côtés, on pourra peut-être en reparler, Boy Scout de Tintin, mais c'est aussi une fonction Tintin. Ce qui compte surtout, c'est les personnages qui gravitent autour de lui, dans une sorte de mouvement brownien, vous voyez. Mais il a des côtés aussi assez étranges quand il part seul dans les montagnes. Quand il y a un côté très poétique aussi chez Tintin.
Vous expliquez dans votre dictionnaire qu'indéniablement, l'ancien scout Georges Rémy aimait les sous-bois et les sombres futaies où se trament des guet-apens et où se déroulent d'angoissantes poursuites. Quand on voit son imagination débordante, on se dit qu'il la doit forcément au scoutisme, mais pas seulement, peut-être à des expériences.
Oui, parce que bon, le scoutisme, vous l'avez bien dit, hein, découverte de la nature, la randonnée, la débrouillardise, la camaraderie, l'amitié, la découverte du monde, et aussi l'indianisme. Et justement, c'était formidable de parler de Seton parce qu'il est plus côté Seton que du côté Baden-Powell, Tintin. Mmh. Hein. L'indianisme est important. Souvenez-vous, peut-être, dans Tintin en Amérique, il y a une page sur la spoliation des terres indiennes. Et la description des Indiens est assez positive, alors qu'à l'époque, dans les westerns, ils étaient toujours méchants. À un certain moment, si vous voulez, Hergé, ça, peut-être, il doit ça au côté très positif du scoutisme, c'est l'ouverture à d'autres cultures. Ça, c'est un des aspects très intéressants.
Mais Albert, vous jetez un voile pudique sur Tintin au Congo quand même, parce que moi j'ai relu Tintin au Congo avec mon fils il y a quelques temps, c'est quand même assez cliché. Après il y a eu un changement chez Hergé après cet album.
Il y a une évolution si vous voulez. Tintin au Congo, souvenez-vous quand vous aviez 23 ans, peut-être n'étiez-vous pas le même homme que vous êtes aujourd'hui.
Oui,
donc il avait 23 ans sous la coupe d'un curé à la fois sympathique, séduisant mais hyper réa, qui avait le portrait de Mussolini sur son bureau, l'abbé Wallet. Donc Hergé, 23 ans, le tout début, et il va se détacher de ça, il va se détacher petit à petit, de manière très paradoxale. Vous prenez le sceptre d'Ottokar, donc on est dans les années, fin des années 30, c'est un récit, on peut dire anti-nazi, c'est l'histoire d'un Anschluss raté, le petit royaume de Sildavi va être envahi par un pays qui est une caricature, au bon sens du terme, de ce qu'était le régime nazi. Hein, le petit roi de Sildavi, que Stéphane a bien connu, va résister à l'impérialisme et au...
On racontait que c'était le roi Leka d'Albanie, enfin le roi Zog d'Albanie, le petit roi de Sildavi, qui est envahi par les troupes de Mussolini.
Tout à fait, tout à fait. Il s'est inspiré de la situation en Europe centrale et dans les Balkans de l'époque. Donc, vous voyez, c'est très paradoxal. Donc, la casserole qu'on lui accroche régulièrement de Tintin au Congo... Elle résonne de manière injuste parce que il était très jeune et ensuite c'est une œuvre à la fois brève, 23 albums, je veux dire pas assez considérable que ça, mais où les évolutions sont tout à fait remarquables. Bien plus que beaucoup d'autres artistes, si vous voulez.
Et justement, sur la jeunesse d'Hergé, Stéphane a évoqué les dessins alors qu'il était encore renard curieux chez les scouts. Ils ont d'ailleurs été publiés. On lui a reconnu un talent dès le départ, Hergé.
Disons qu'il y a des maladresses dans ce dessin, mais il y a effectivement déjà le sens du gag, pas mal d'autodérision, un humour qui n'est pas forcément méchant, mais il pouvait être acerbe à certains moments. Et disons, il y a beaucoup de choses en germe. Et après, comme beaucoup d'artistes, il n'en reste pas là. Il ne cesse d'améliorer son trait, et le passage à la couleur va être tout à fait formidable. Il s'entoure de gens de grands talents. Je pense à Jacobs, l'auteur de Black et Mortimer, qui va être un de ses collaborateurs pendant pas mal d'années, jusqu'aux albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Van Melkebeck est un co-scénariste. Il sait s'entourer, mais... In fine, c'est toujours quand même la patte d'Hergé, grand artiste, qui a fait de la bande dessinée un art majeur, si vous voulez. Avant lui, il y en a eu d'autres. On pense à Benjamin Rabier, l'inventeur de la vache qui rit, Zigépus de Alain Saint-Aubin, que Hergé admirait beaucoup. Mais il va dépasser tout ça pour en faire un art complet. Et le monde entier de la BD aujourd'hui lui est très reconnaissant, si vous voulez. Prenez des jeunes auteurs comme Riyad Satouf, Zep, ils admirent énormément Hergé. Certains l'ayant d'ailleurs redécouvert en cours de route, si vous voulez.
Vous parliez de Albert du côté scout qui découvre le monde, et c'est vrai que Tintin était un personnage marqué par son époque, avec un voyage chez les Soviets, quand il marche sur la Lune, etc. S'il était encore parmi nous, Hergé, quelles aventures il imaginerait pour son personnage à l'heure des nouvelles technologies, à votre avis?
Il s'intéresserait, je pense, aux réseaux sociaux. Voyez, vous aviez évoqué tout à l'heure l'Alfart, son dernier album, qui est inachevé, hélas, dans lequel il s'intéresse à l'art contemporain. Il fait de Haddock un amateur, à la fois éclairé, totalement snob. Hergé lui-même, à la fin de sa vie, les 15 dernières années de sa vie, il y a comme un rajeunissement intellectuel. Il écoute les Pink Floyd qu'il ne connaissait pas. Il aimait pas beaucoup l'opéra, mais il mentait parce qu'en fait il le connaissait bien. Mais il écoute du rock, il écoute de la musique psychédélique. Il a des centres d'intérêt métaphysiques aussi. Il s'intéresse beaucoup aux philosophies orientales. Lui-même, son apparence physique, certes, il vieillit, mais dans son accoutrement, dans son habillement, il a des chemises à fleurs, il est beaucoup plus détendu. Et donc, je pense qu'il s'intéresserait à Internet, aux réseaux sociaux, à l'astrophysique, à la physique quantique. J'en suis certain. Il était très, très renard curieux. Il est resté toute sa vie.
Mais merci beaucoup, Albert Algout, d'être revenu avec nous sur ce dessinateur emblématique qui a créé un personnage culte dont on a tous suivi les aventures grâce notamment aux valeurs du scoutisme. Je rappelle, votre dictionnaire amoureux de Tintin, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur lui, qui est toujours disponible chez Plon, disponible en poche, oui, dès cet automne en poche, absolument.
Merci beaucoup Albert. Je vous en prie, merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque des scouts toujours. Après Ernest Thompson Seton et Hergé, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un chanteur qui a été scout beaucoup plus récemment, parce que c'est un chanteur actuel, oui. C'est Vianney.
Humble, souriant, sobre, Vianney serait-il trop parfait? Ici, Stéphane se moque souvent de lui, allant même jusqu'à l'imiter.
Je suis pour la paix dans le monde, et je suis pour que tous les hommes soient riches.
Vous êtes vraiment dur, non, Stéphane,
c'était une imitation de ce que disent les Miss France.
C'est vrai. Évidemment, dans l'univers du showbiz tel que vous le connaissez, Stéphane, la personnalité de Vianney, si douce, si consensuelle, dénote le showbiz tel que vous le pratiquez depuis toujours, se définit par ses frasques, ses excès, ses vices et ses travers. Vous en avez souvent fait l'expérience lors de vos soirées clandestines du PAF, courtisane, cire chaude, boulier et poireau de 40 ans. Co-hosté par David Castello-Lopez. Si dans le trousseau du chanteur à succès, on trouve souvent les trois outils de survie, cocaïne, cash et capote, le chanteur Vianney, lui, se munit du trio gagnant, couteau suisse, boussole et briquet, puisque Stéphane scoute un jour.
Scoute toujours.
Formidable. Oui, Vianney a été et reste un scout dans l'âme, une âme pure qui déclare dans Libération « J'ai une foi et j'essaie de la faire fructifier. La méconnaissance me construit. Je veux savoir. C'est un mystère. Il faut cheminer. » Justement, en cheminant avec Vianney, on découvre quelque chose d'assez stupéfiant. C'est que le gars ne fait pas semblant d'être gentil. Il est gentil tout court. Il fait partie de ces êtres rares qui, lorsqu'il te demande si ça va, écoutent réellement la réponse et ne repartent pas direct avec leur macchiato sans que tu aies le temps de commencer à formuler une réponse. Vianney ne fume pas, ne boit pas d'alcool, ne se drogue pas.
C'est chiant.
Non, c'est bien, David. C'est le mot que vous cherchiez. C'est bien. Quand on le rencontre, il se prépare un thé dans la cuisine de sa maison de disque. Il lavera la tasse, rapporte stupéfait un journaliste de l'Express.
Incroyable.
Je sais, Stéphane, c'est fou. Qui est donc cet ovni? Vianney Bureau, de son vrai nom, voit le jour le 13 février 91 à Pau. Prédestiné à la musique, son grand-père a produit le film Les Amants de Demain avec Édith Piaf. Il grandit, je cite, avec des parents spéciaux dans une famille très chantante et, disons-le, très catholique, à tel point que son prénom lui vient de Jean-Marie Vianney, nommé saint patron des curés en 1929. Un peu de culture liturgique n'a jamais tué personne. Ses parents sont militaires. Papa est pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air, maman pilote d'aéronef, instructrice sur Cessna. Avant de devenir prof d'économie-gestion, enceinte de Vianney, elle écoute Stevie Wonder à longueur de journée. Il en est certain, grâce à maman, son oreille musicale s'est formée in utero. À l'adolescence, Vianney se tâte. Mes parents étaient pilotes. L'idée d'être à l'étranger, de protéger des populations, de vivre des situations dangereuses m'attirait. C'était mon délire. Mais très vite, il se prend de passion pour la musique. Son père lui transmet le goût de la chanson française avec Maxime Le Forestier, Jonas, Brassens. Un soir, dans la petite cuisine familiale, son père lui joue Aline.
Et j'ai crié.
Il a crié et c'est le déclic. Vianney apprend la guitare en autodidacte. Sans même savoir lire la musique, il compose déjà seul dans sa chambre ses premières chansons. Une guitare qui lui sera fort utile autour du feu de camp puisque oui, c'est le thème de notre émission, Vianney devient scout. Scout d'Europe plus précisément pour les puristes. Ce qu'il préfère, les raids. Définition proche de l'enfer pour vous, Stéphane. Un raid, c'est se dépatouiller pendant 3 jours sans argent, sans voiture, sans hôtel, sans nourriture et se rendre d'un point A à un point B à pied, en uniforme, en dormant chez l'habitant.
Je vais vomir.
Oui, non.
Si tu m'en parles,
on n'en parle plus, d'accord. Je vous ai dit ce que c'était, on n'en parle plus. Famille ayant migré à Paris. Oui, non, mais c'est l'horreur pour vous, Stéphane. Mais pour moi aussi. Bon,
au point de vomir, oui.
Sa famille ayant migré à Paris, Vianney intègre le collège privé catholique Notre-Dame des Oiseaux dans le très huppé 16e arrondissement. Problème, le 16e arrondissement, Vianney déteste ça. Il n'y supporte pas ce qu'il appelle la tyrannie des marques. Et il insiste donc pour qu'on l'envoie en pension au lycée militaire de Saint-Cyr. Là-bas, selon lui, l'uniforme libère de l'appareil. Aventurier dans l'âme, à 16 ans, Vianney rejoint la frontière israélienne en autostop avec seulement 100 balles en poche. À 20 ans, il se lance dans un tour de France en scooter, puis puis c'est à bicyclette qu'il tente de rejoindre Londres, Berlin ou encore Stockholm. Il se le promet, un jour il fera Bombay New Delhi à pied, soit 1400 km. Bon alors, comme il est parfait, il n'oublie pas pour autant ses études. Après une école de commerce, il se réoriente vers des études de stylisme. Son objectif, ouvrir un magasin de vêtements en Suède. Alors oui, il est très sympa, mais comme vous pouvez le constater, il tient pas en place. Heureusement, Stéphane, son talent va finir par décider pour lui, car ses petites maquettes commencent à attirer l'attention. Son premier single, Je te déteste, le titre, sort sur le net, inspiré par une ex qui lui aurait piétiné le cœur quelques années auparavant. Terrible pour lui, magnifique pour nous, puisque naît également de ce drame ce qui sera son premier tube. N'était pas là, ça a créé un tube. La fusée Vianney est lancée, les premières parties de Florent Pagny, Julien Clerc ou Johnny Hallyday suivront, puis les concerts en solo, puis les victoires de la musique à gogo, puis une place de coach dans The Voice, puis une carte d'adhérent à la troupe des Enfoirés, pour qui il signe d'ailleurs le nouvel hymne des Restos en 2019. Un troisième album où figure un titre écrit initialement pour Johnny, qu'il portera finalement lui-même.
N'attendons pas.
Allez, on imagine avec la voix de Johnny. En 2016, il rencontre Katoche, Catherine Robert, une violoncelliste déjà maman qui lui offre le beau rôle de beau-père, avec qui il a un enfant cette année, Catherine à qui il chante
« Où je t'aimerai toute la vie, pour de vrai ».
Comment David, il est fort ce con. Ah oui, oui, c'est vrai, il est fort, il est même très fort. À côté de lui, on se sent tous un peu minables. Qu'est-ce que vous faites, vous David, quand vous ne travaillez pas?
Champagne et poutre.
C'est du propre. Vianney, lui, il est pas comme vous, David. Quand il a un petit trou dans son emploi du temps, il ne se laisse pas aller à la facilité du champagne et poutasse. Non, il s'engage pour les enfants malades et il enchaîne les maraudes avec l'association caritative Hiver Solidaire. Un grain de sable sur une plage de bonne volonté. Des centaines de bénévoles se relaient pour accompagner quelques sans-abri durant l'hiver. Nous dînons et dormons ensemble au chaud. Cette mission nous apporte peut-être plus à nous accueillants qu'à eux accueillis, explique modestement Vianney au sujet de son engagement. En 2018, sur la scène de l'Accor Hotel Arena, vous savez ce qu'il lance au micro, Stéphane ?
Je suis très ému de pouvoir chanter devant tous ces trous de balles.
Non, Stéphane, non, pas du tout. Ça, c'est vous quand vous êtes au site d'action. Non, pas non. Du tout. Il rend hommage. Mais non, vous êtes non. Ignoble, Stéphane.
Non, c'est
plus j'apprends à vous connaître, c'est vraiment
vous.
Fou quand même.
Il rend horrible, mais c'est pire que tout ce que j'imaginais.
Non, il rend hommage à ses parents présents dans la salle avant de fondre en larmes devant des dizaines de milliers de spectateurs.
Eh oui.
Mais Stéphane, je sais, on est loin de vos soirées courtisanes, cire chaude, boulier et poireaux de 40 ans. Je crois qu'entre vous et Vianney, il y aura toujours un gouffre que nul ne pourra venir combler. Ce gouffre s'appelle le cynisme.
Non. Merci beaucoup Mathieu, mais voyez-vous, il n'y a pas de gouffre entre Vianney et moi,
vous êtes
parce que lui me connaît mon vrai visage.
Oui, c'est vrai.
Vous, c'est le visage fantasmé. Ouais. En fait, vous projetez sur moi toute votre turpitude.
Mais c'est vrai que c'est souvent pas, comme ça que je travaille.
C'est vilain.
Oui, c'est vilain. J'en dévoile trop de moi, en fait.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Allez, il est l'heure de dire au revoir à nos scouts du jour.
Pour retrouver Stéphane, celui dont le personnage préféré d'Hergé est sans conteste le capitaine Haddock, il faut dire qu'ils ont une passion commune, le whisky. Ce qui tombe bien aujourd'hui, puisque vous nous parlez de l'origine du whisky, Olivier Pousse.
Et cette boisson que le capitaine Haddock savoure assez régulièrement.
Je ne sais pas si savourer est le mot. Hein,
avec parfois un petit peu d'abus, il faut bien le reconnaître.
Oui, quelques petits dérapages. Avant cela, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de quelque chose de notre quotidien qui disparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'horloge parlante.
Alors, vous me disiez que vous n'avez pas beaucoup utilisé l'horloge parlante.
Non,
n'empêche, on fait partie, vous et moi, de la dernière génération, en tout cas certains membres, ont utilisé l'horloge parlante, non pas comme une curiosité hipster, mais comme un vrai service précieux. Jusqu'à l'arrivée de certains téléphones portables performants et de l'Internet, la seule façon de savoir précisément l'heure qu'il était, c'était d'appeler l'horloge parlante.
Le soleil.
Oui, si vous savez lire l'heure dans le soleil, ce qui est assez rare. Et comme personnellement, je suis quelqu'un, on dirait pas forcément d'ailleurs comme ça, mais je suis quelqu'un qui adore que les choses soient en ordre. Et bien régulièrement, j'appelais l'horloge parlante à l'enfance, à l'adolescence, pour remettre à l'heure ma montre. Et ensuite, je prenais ma montre comme référence et j'allais régler un par un tous les réveils de la famille en me disant, tiens, c'est fou, le réveil de maman, il retarde un peu plus que les autres. Et ça me plaisait, vous voyez. Et oui, c'est déjà. Et puis, il y avait ces moments délicieux entre tous, où ces moments où les plombs sautaient dans l'appartement et brusquement tous les réveils de la maison liée à l'électricité, mais aussi le magnétoscope, le four, la chaîne IFI, toutes ces horloges, elles devaient être remises à l'heure à la fois, et on faisait appel encore une fois à la douce voix de l'horloge parlante. Je me souviens une fois de l'avoir appelé et de l'avoir écouté pendant longtemps, vous voyez, plusieurs minutes bien après que l'heure était... Ben, juste comme une sorte de petite expérience. C'était assez mystique, d'ailleurs. Et ça l'est toujours.
Mais on c'était compense... à l'époque où vous draguiez Constance ou
non,
ou
c'était...
pas
non, c'était encore plus jeune. C'est l'enfance, oui. C'est... Oui, peut-être entre
rien
12 et 15 ans.
Rien à voir avec votre microscope.
Non, non, alors rien à voir avec ça.
Vous n'étiez pas avec votre microscope en écoutant l'horloge parlante. Tout... Parce
non,
que là,
c'était vraiment,
ça vraiment
c'était une expérience très lugubre. Pure et pas du tout sensuelle. Alors, l'horloge parlante, ça marchait comme... On compose le 36-99 et là, on entendait maintenant, alternativement, un monsieur et une dame qui vous disent l'heure à l'infini, 5 fois par minute. Une minute, une dame, l'autre minute, le monsieur. Ils la disent à 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes et à la minute. Et ils disent tout ça d'une voix toujours égale, élégante, professionnelle, avec un accent un tout petit peu nouvelle vague qui était déjà daté à l'époque. Alors, hier soir, tard... Pour préparer cette chronique, j'ai appelé l'horloge parlante pour la première fois depuis 20 ans. J'ai d'abord été surpris parce que à mon époque, ça coûtait le prix d'un appel local, c'est-à-dire rien du tout. Et aujourd'hui, ça a un petit peu changé.
Bienvenue sur l'horloge parlante d'Orange. Après le bip, l'appel coûtera 1,50€ plus le prix d'un appel.
Voilà,
1,50€
pour savoir l'heure. C'est encore plus cher que d'aller faire pipi dans une gare. C'est vraiment hors
c'est
de prix.
C'est le plus mauvais deal du moment.
Mais une fois passé ce moment, j'ai presque eu les larmes aux yeux parce que le monsieur et la dame que j'avais quitté il y a plus de 20 ans, et bien il continuait à dire l'heure avec exactement le même sérieux, la même élégance, et la même voix peut-être, et la même voix un peu Troisième République. Écoutez le monsieur par exemple.
0h, 5 minutes, 20 secondes.
20 secondes, vous voyez
y a mais nous, on n'est pas comme vous, David. On ne va pas s'exciter sur la voix de l'horloge parlante. Je sais que vous essayez de nous entraîner dans votre monde.
Je suis sûr que je ne suis pas tout seul. Dans
ah
ce
oui,
monde.
Moi je suis d'accord.
Ça, vous aussi, ça vous fait quelque chose.
Ce sont les gens qui ont fait la voix, évidemment.
Oui. Non, non, la dame, on sait, le monsieur, on ne sait pas. Oh, moi, non. Je les imagine, ces gens comme de vraies personnes dédiées robotiques qui, depuis 20 ans, alors que moi, j'ai fait plein de trucs, et ben, eux, ils sont restés enfermés dans le téléphone, calmement, à faire le travail de dire l'heure. Mais alors, de quand est-ce qu'elle date cette horloge parlante? Alors, au début des années 30, il y avait déjà une horloge parlante, mais c'était quelqu'un qui parlait pour de vrai. C'est-à-dire que il y avait un numéro que vous pouviez appeler à l'Observatoire de Paris. Vous pouvez appeler un numéro à l'Observatoire de Paris, vous demandiez l'heure à la personne et la personne vous donnait l'heure, tout simplement, un peu comme vous pourriez appeler un ami pour le faire, sauf que c'était quelqu'un qui était dédié à ça. La ligne.
Moi, je vais faire ça, je vais vous appeler, tiens.
Mais voilà, quelle heure
en
il est?
En pleine nuit, tiens, quelle heure il est, David?
Olivier, arrêtez, s'il vous plaît, ça fait la 6e fois cette semaine. La ligne, elle était toujours occupée parce que les gens, ils n'arrêtaient pas d'appeler, donc c'était pas très efficace. Et il y a un type de gens que l'absence d'efficacité énerve énormément, ce sont les ingénieurs.
Ah, ou les ingénieurs allemands.
Les ingénieurs allemands, encore plus. Et justement, il y avait à l'Observatoire de Paris, un ingénieur qui était le directeur d'observatoire, qui s'appelait Ernest Esclangon, un vrai nom de la Troisième République pour le coup. Et il a fait enregistrer toutes les heures par une vedette de la radio qui s'appelait Marcel Laporte. Et ce monsieur Laporte, ça a été la voix de l'horloge parlante jusqu'en 1965. En 1965, il a été remplacé par un agent des PTT qui faisait un peu de théâtre amateur. Alors on lui dit, vas-y, fais la voix.
Ça a été son plus grand rôle.
Voilà, exactement. Et l'heure qu'il donnait était aussi, à partir de ce moment-là, sensiblement plus précise parce qu'elle venait d'une horloge atomique. Et donc c'était, je crois, au millionième de seconde. Le dernier changement, c'était en 1991 quand des ingénieurs se sont dit qu'on pouvait faire encore mieux. Alors, ils ont enregistré toutes les syllabes nécessaires à la création de toutes les heures possibles et de toutes les dates jusqu'en 2091, 100 ans plus tard. Ils ont enregistré genre 20, mais aussi te pour faire 20 T3, vous voyez, et T pour faire 20 T1. En tout, chaque voix durait 4 minutes et ça pouvait faire absolument toutes les heures. Il y a un ordinateur qui combinait toutes ces syllabes pour créer l'heure. Mais depuis quelques années, il y avait plus grand monde qui appelait l'horloge parlante et le matériel nécessaire à l'horloge parlante, il devenait vieux. Alors, Orange a décidé de l'arrêter et comment ils l'ont annoncé? Eh bien, sur l'horloge parlante elle-même, avec un message enthousiaste dans la forme, mais très triste dans le fond.
Nous vous informons que l'horloge parlante fermera définitivement le 1er juillet 2022.
Voilà. Alors, comme l'arrêt des cabines téléphoniques, ça n'a aucun impact sur mon existence, sauf de me rappeler que ma jeunesse est derrière moi et que je me rapproche doucement de la mort.
Vous êtes sur Europe 1.
Hein. Oui. Vous avez encore un peu de temps, quand même.
Et maintenant, j'espère. On va se finir au whisky. Merci, David.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Pour oublier le temps qui passe, les rides qui pointent sur notre visage, pour oublier les cabines téléphoniques qui ne reviendront pas, l'horloge parlante qui a disparu aujourd'hui. Il nous reste le whisky, Olivier Pouls. D'où vient ce beau produit?
Ben vous savez, irlandais ou écossais, telle est évidemment la question et qui fait débat depuis des années et des années et des années. On ne l'a pas réellement tranché. Alors, pour remonter à l'origine du whisky, il faut évidemment dater l'arrivée de la distillation en Europe. Alors, on sait que les Égyptiens, déjà, avaient commencé à distiller. Ils avaient des prototypes d'alambics qui permettaient de distiller des choses, mais c'était utilisé pour le parfum et non pas pour de la consommation d'alcool. Les Arabes ont perfectionné au Xe siècle cette technique de distillation, et on peut considérer qu'elle arrive en Europe au XIIe siècle. Mais les Irlandais prétendent que cette technique aurait été rapportée par leur fameux Saint Patrick en 432, voyez-vous, 10 siècles avant, suite à un voyage en Égypte. Alors, fort de cette légende, ils s'attribuent la paternité du whisky. Malheureusement, il n'existe strictement aucune trace écrite qui prouve ces dires. Il faut les croire sur parole.
Oui, on sait pas.
Bon.
Oui.
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, à partir du XIIe siècle, ce sont essentiellement les moines qui distillent des plantes, du miel, et ils obtiennent une boisson qui est plutôt un médicament et qui n'a en fait rien à voir du tout avec le whisky qu'on connaît. Et là aussi, on sait qu'il n'y a pas de trace écrite de distillation de céréales, et c'est à partir de la distillation de céréales qu'on va pouvoir commencer à parler du whisky. Et là, il faut attendre le 15e siècle, les années 1490, pour voir apparaître un produit qui ressemble à celui que nous connaissons aujourd'hui, issu essentiellement de distillation clandestine. Alors, au fil des siècles, les lois vont apparaître, les recettes vont se préciser, et on peut considérer qu'en 1823, l'Écosse reconnaît officiellement pour la première fois les vrais whisky pur malt, et c'est donc une reconnaissance officielle qui fait dire aux Écossais que c'est eux qui ont évidemment inventé le whisky. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, ce sont les Irlandais qui vont un peu leur damer le pion et qui vont dominer le marché avec leur fameux Irish Whiskey. Et d'ailleurs, vous savez que entre whisky et whiskey, l'orthographe n'est pas... Alors, c'est la même chose. L'un est irlandais, l'autre est écossais.
Alors, lequel est irlandais?
Alors, Irish Whiskey, donc les Irlandais ont le avec qui s'écrit avec un EY, et le whisky, c'est ce qui est fait par les Écossais, c'est ce qu'on utilise dans le reste du monde. Le whisky est également utilisé aux États-Unis, où là, le bourbon, c'est du bourbon. C'est du bourbon, et là, le bourbon est né évidemment de l'immigration, notamment des Irlandais, des Écossais, et il doit son nom à un comté qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le comté de Bourbon, et non pas la Vanille Bourbon, comme certains pourraient le penser, mais c'est l'ancien comté de Bourbon aux États-Unis, au centre des États-Unis. Et alors là, la petite différence, c'est que les Américains vont introduire le maïs dans l'élaboration de leur fameux Bourbon ou de leur whisky, qu'on trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors, au 19e siècle, le whisky va connaître un coup d'accélérateur, c'est un peu à cause d'une maladie qui a ravagé nos vignobles, qui s'appelle le phylloxéra, et ce fameux phylloxéra, il va s'attaquer aux vignes, des vignes qui permettent à l'époque de produire notamment le cognac ou l'armagnac, et les quantités produites de cognac et d'armagnac vont s'effondrer, et le whisky va donc prendre en quelque sorte le pas et devenir une boisson mondialement connue qu'on va pratiquer, enfin qu'on va produire dans plein d'autres pays, puisque le nom exact de whisky n'est pas protégé, c'est pas une appellation d'origine. Donc on fait du whisky en France, on fait du whisky au Japon.
Bon, le whisky français.
Ça commence. Il y a des whiskies qui sont assez intéressants, et franchement la qualité a beaucoup progressé. Alors, pour s'y retrouver un peu dans le whisky, je vais vous donner quelques petits points de raccrochage. Le blend, par exemple, c'est un mélange de malt et de grains, puisqu'on peut trouver des whiskies de malt et des whiskies de grains. Donc les grains, c'est le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, par exemple.
Stéphane ne boit que du single malt, s'il vous plaît.
Alors le single malt, c'est un pur orge qui provient d'une seule distillerie. Tiens, petit fun fact, et sur Oxale, quel est à combien s'est vendu et quel est le whisky le plus cher du monde? C'est vendu lors d'une vente aux enchères.
Il faut donner la marque ou le prix?
Le prix, la marque, je vous dirais. Par partie de comparaison, le vin le plus cher du monde, c'est autour de 500 000 euros. C'est
une bouteille,
c'est une bouteille de Romanée Conti 1945.
800 000, 1 million.
Hein? Non. Allez, 2 millions.
1,7 million.
1,7 million.
1,7 million, un Macallan de 1926, single casque, donc un seul fût, mis en bouteille en 1986, donc 60 ans d'âge. Toujours petite question, est-ce que vous savez ce qu'est le Loch Lomond?
Le Loch, c'est un lac, donc c'est comme le Loch Ness.
C'est un lac.
Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est le whisky préféré du
pape.
Capitaine Haddock.
Capitaine Haddock.
Ah oui, mais il existe.
Oui, on en a fait, évidemment.
Bon, on en a fait, mais il existait après.
Voilà. Et puis, dernière petite information autour du whisky. Vous aimez peut-être les whiskies tourbés.
Oui, alors c'est quoi ça? Pourquoi on dit tourbé, pas tourbé?
Eh bien, tout simplement parce que les grains d'orge sont séchés au feu de tourbe. Et la tourbe, c'est quoi? C'est une matière organique, qui est obtenue avec la décomposition de végétaux.
C'est du pré-charbon, en fait.
C'est un peu du pré-charbon. Et en fait, c'est une combustion assez faible. Ça dégage beaucoup de fumée. Et donc, ça permet de sécher et d'aromatiser en quelque sorte ces grains d'orge qui, après être distillés, vont garder ce goût.
Moi, ce qui m'intéresse, pas tellement le goût du whisky, c'est un peu fort pour moi, mais c'est surtout pas passer pour un con dans les dîners où on parle de whisky et avoir l'air de m'y connaître. Est-ce qu'un bon whisky doit forcément être tourbé?
C'est non, ça que j'ai envie de savoir. Forcément. Non. Il y a des très grands whisky tourbés, il y a des whisky qui ne sont pas du tout tourbés, c'est vraiment une manière de sécher
l'orge. C'est un goût qu'on a pour
Exactement. Et alors, dernière petite chose, dans la dégustation du whisky, vous pouvez, et c'est l'un des seuls alcools qui l'autorise,
mettre quelques gouttes
d'eau.
Ah bon?
Quelques gouttes d'eau à température. Ça va d'ailleurs permettre de développer encore davantage les arômes dans votre verre. Mais vous versez pas une.
Moi, je mets du coca.
Ah, ben, c'est une bonne idée, oui.
Fin de cette chronique. Merci.
C'est quoi les autres mots pour décrire le whisky à part tourbé? Est-ce qu'il y en a?
Oui, dites-nous d'autres trucs.
Après, il y a tous l'éventail des saveurs. Ouais. Non, mais c'est les saveurs, c'est comme le vin. C'est-à-dire, vous allez trouver des notes d'épices,
de
sous-bois, de cuir, de réglisse, enfin, tout ce que, tout l'univers olfactif est présent aussi dans les grands whisky. Mais tourbé, c'est vraiment un whisky très spécifique avec ses notes fumées caractéristiques dues à cette fameuse tourbe.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Bien après le whisky, maintenant je vous propose un doigt d'histoire, n'est-ce pas?
Incontournable, ça fait 3 heures qu'il l'a préparé, content. Oui.
Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, vous connaissez le principe, j'ai pas besoin de vous le rappeler, là c'est la fin de saison, donc...
Oui, allez-y, on s'en fout.
Non, on s'en fout pas, mais voilà.
On connaît les règles.
Maintenant, je rappelle les scores, donc Olivier a 71 victoires, David 69 et Mathieu 67. Olivier, vous connaissez l'épitaphe de Voltaire? Sur son tombeau au Panthéon, il est écrit « En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité ». C'est vrai ou c'est faux?
En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité. Voltaire, non, j'y crois pas.
La vérité, quoi.
Ouais, ça, c'est la vérité. C'est votre compatriote qui a écrit ça, Jean-Claude Van Damme. En revanche, sur le tombeau de Voltaire, il est écrit « Il combattit les athées et les fanatiques, il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité ». On va rester avec Voltaire, avec vous, David Castel-Lopez. Le cerveau de Voltaire a été donné contre deux places de théâtre à la Comédie Française pour une durée de 20 ans. C'est vrai ou c'est faux?
Pourquoi moi j'ai une question dure alors que lui il a eu
la question? La question était extrêmement difficile.
Est-ce qu'il a été donné contre deux tickets de théâtre à la Comédie Française pour une durée de 20 ans? Ça paraît farfelu, mais... ça paraît difficile à être inventé. C'est toujours le truc qu'on se dit, ah tiens, est-ce que ça n'a pas été avec un autre cerveau pour une autre truc? Ah ben non, ça c'est... Non, je pense que c'est vrai.
Oui, Mitoire était apothicaire, il était chargé de l'autopsie de Voltaire. Il va garder le cerveau de Voltaire, puis ses descendants l'ont donné au XXe siècle, au début du XXe siècle, à la Comédie Française, en échange de deux places en fauteuil d'orchestre pendant 20 ans.
Ah oui, d'accord, deux places pendant 20 ans. Je me disais, c'était pas cher payé sinon.
Ouais. Ouais. Mathieu, on va rester toujours avec Voltaire. Le cerveau de Voltaire est donc à la Comédie Française. Mais où donc? Dans une statue? Dans un coffre en forme de livre ou dans un bocal aquarium de la salle Richelieu?
J'en ai aucune idée, mais j'ai lu un livre, une fiction, c'est un roman, mais dans lequel il y a le vol du cerveau de Voltaire dans une statue. Alors je dirais dans une statue, mais peut-être bon, comme c'est un roman, il l'a peut-être inventé, mais j'ai aucune idée. Il n'est pas dans l'aquarium, non, ça c'est votre esprit facétieux. Et l'autre, dans un livre.
Un coffre en forme de livre.
Bah, quelque part, ça serait plus logique que ça soit là-dedans, que mon histoire de statue, mais comme j'ai lu ce roman qui était vachement bien d'ailleurs, j'ai plus le titre, du cerveau de Voltaire dans une statue.
Dans une statue représentant Voltaire, une statue de Houdon, à la Comédie Française.
Oh, joli. Oh là là. Oui. Oh là, elles sont bien tournées, vos questions.
Tous les trois, vous devez répondre à la question. combien de temps Voltaire a été embastillé à l'âge de 23 ans pour avoir écrit des vers sur les amours incestueux de Philippe d'Orléans avec sa fille. Il a été enfermé à la Bastille pendant combien de temps?
En jour ou en heure?
En jour, en mois, en année, en heure, c'est comme vous voulez.
David, allez-y, je dis tout en premier.
58 jours.
58 jours, 58, ça fait un mois et 15
jours. Ça fait
jours,
presque 2 mois.
Presque 2 mois.
Moi, j'ai mis 240 jours.
Ça fait combien en...
bon, ça fait 8 mois.
Il faut mettre en jour.
Ça fait 8 mois.
Il faut mettre
non,
en jour.
Ou en mois ou en... Qu'est-ce que vous avez mis, vous?
J'ai mis 16 jours.
16 jours, oui, c'est bien. Alors, donc, c'est Olivia encore.
Oh non!
Oui.
Il y en a marre.
11 mois.
Ah, j'étais pas loin.
Il est resté 11 mois en prison.
Mais moi, c'est ça, 16 mois.
Ouais, 16 jours.
16 mois, j'avais mis, c'est sur le papier.
Ah là là, bon. Ça y est.
Tricheur en plus.
Ah là, ça
c'est moche. C'est moche, oui. Ouais, vous pouvez attaquer le cynisme des autres, mais quand on triche comme vous. Alors, c'était 11 mois en 1717. Voilà.
Je crois que c'est Olivier qui va gagner. Hein.
Là, et il retournera en 1726, mais cette fois pour seulement 2 semaines.
Notre spécial scout toujours s'achève. L'occasion, évidemment, de révéler à nos auditeurs qui, dans l'équipe, a déjà été scout. Est-ce qu'il y en a déjà?
Alors moi, j'étais scout laïque.
Scout laïque.
Donc, je pense qu'il manquait une discipline religieuse, parce que du coup, c'était un peu le bordel.
Ah oui,
ouais,
c'est vrai,
ouais. On m'a fait marcher dans la neige en short.
C'était
quand même un tout. Rien de comparable, je pense, avec certains scouts, un peu avec les trucs que faisait Vianney, là, avec les scouts d'Europe. Mais non, j'en gardais assez bon souvenir. On faisait du sport, j'ai appris à faire du feu, j'ai appris à coudre. Il y avait une sorte de.
Maintenant, vous savez vous débrouiller dans la nature.
Voilà. Et un truc un peu solennel aussi, des espèces de trucs un peu mystiques. On se mettait en rond et il fallait faire des vœux, des trucs comme ça, j'aimais bien.
En tout cas, la bonne nouvelle. Vous connaissez la bonne nouvelle, David?
Oui, je crois que alors là, il y a le week-end qui arrive, mais dès lundi, on va se retrouver pour une nouvelle émission. Oui,
bien joué, David. Vous suivez exactement. On se retrouve lundi et vous connaissez le programme, Stéphane.
Bah oui, on réunit des personnages nés un 4 juillet.
À quelle occasion?
Bah le 4 juillet.
C'est bien trouvé.
Oui. J'en conviens, on réunit pour l'occasion.
Tous les jours de l'année,
le général. Mais non, mais 4 juillet, c'est Independence Day quand même.
T'as pas vu le film?
On réunit pour l'occasion le général Giuseppe Garibaldi, considéré comme l'un des pères de la nation en Italie. Puis direction l'Amérique, quand même, c'est nécessaire avec celui pour qui il n'y a pas de soleil. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. L'un des derniers grands noms de la musique américaine, l'artiste soul, Bill Withers.
Et moi, je vous raconte un cinéaste cofondateur du collectif Courtrajmé, né lui aussi un 4 juillet, d'où ça prend notre émission, 4 juillet 1980, même Kim Chapiron. D'ici là, bon week-end les amis.
À lundi Mathieu, bon week-end.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.